السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد. On s'arrêtait la fois dernière sur le trajet qui va mener le professeur sallam et son armée de sa mosquée, al-Masjid al-Nabawi, jusqu'à la montagne de Uhud. On a expliqué le déroulement du dernier jour avant la bataille de Uhud, le vendredi. La bataille de Uhud aura lieu un samedi. Le vendredi, le professeur sallam a prié le Jumu'a. Il a prié une prière funéraire pour le compagnon Malik ibn Amr radiallahu anhu qui était décédé. On a expliqué qu'il a présidé, il a guidé la prière de l'Asr et que il s'est rendu compte que tout le monde était arrivé, puisque le point de rendez-vous c'était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui et l'ont accompagné ses deux fidèles compagnons, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ils l'ont aidé à s'habiller, à mettre son turban, son casque, ses deux armures. Ils lui ont donné son épée. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. On s'était attaché aussi à vérifier comment vivaient certaines. On avait pris quelques exemples de certaines demeures de la ville de Médine pour montrer que malgré cette préparation et aussi cette panique, puisque la ville de Médine est menacée et attaquée, chacun aussi, en parallèle, sa vie continue. On a parlé justement de la famille de Malik ibn Amr qui ont perdu leur père et en même temps, ils doivent aussi contribuer comme les autres à la bataille de Uhud. On a parlé de la demeure de Hamdallah ibn Abi Amir qui, lui, ce n'est pas un décès qu'il a vécu, c'est le contraire, c'est une joie puisque c'est le jour où il s'est marié. Malgré cela, il va participer à la bataille de Uhud et il va même mourir à la bataille de Uhud. On a parlé de Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père du compagnon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhum, qui lui aussi se prépare et comment il va se préparer à cette bataille. Et on sait qu'il va tomber en martyr, donc il vit ses dernières heures et il le pressent. Et on a expliqué aussi comment il vit et comment il se prépare à ça, comment il donne ses dernières volontés. Il transmet ses dernières volontés à son fils, le compagnon Jabir ibn Abdillah. Et on a aussi parlé de ce trajet, de ce fameux trajet qui est fait où le prophète sallam à la tombée de la nuit ou un peu avant la tombée de la nuit part vers l'est. Il coupe vers l'est. Nous, on sait, comme on a expliqué, que les idolâtres sont en plusieurs campements, l'est et le nord de Médine. Ils sont éparpillés entre l'est et le nord de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emmène son armée directement vers l'est. On a expliqué que il va arriver, le premier endroit où il va arriver à la périphérie de Médine à l'est, c'est Thaniyatul Wada', et qu'il aurait pu attendre à cet endroit-là pour intercepter, pour que la bataille ait lieu à cet endroit-là. Non, le professeur sallam, il sait qu'il va à Uhud, mais pour tromper, entre guillemets, l'ennemi, pour pas qu'il ne se doute à quel endroit il se dirige, le prophète sallam, au lieu de couper vers le nord, puisque Uhud est au nord, il va vers l'est. Et arrivé à Thaniyatul Wada', il commence à monter tout doucement. Il va jusqu'à un endroit qu'on appelle Shaykhan. Il s'arrêtera là pour prier Al-Maghrib Al-Isha. Ensuite, il y passera une grande partie de la nuit en demandant à ses compagnons de se reposer. Et il va charger 50 hommes de veiller sur le camp des musulmans pour que les 50 hommes qui sont de surveillance puissent permettre aux autres de dormir et de se reposer. Et parmi le professeur sallam nomme à la tête de ces 50 hommes un chef, et pas n'importe lequel, le compagnon Mohammed ibn Maslama, radiallahu anhu, dont on a largement déjà parlé pendant l'incident, l'événement de Ka'b ibn al-Ashraf avant la bataille d'Uhud. Et un homme est nommé pour surveiller en particulier la tente du professeur sallam, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un espion ou un idolâtre s'infiltre dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et profite de la nuit pour essayer de s'introduire dans la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui causer du tort ou même l'éliminer physiquement. Donc il y a un homme, Dhakwan ibn Abdi Qais, le compagnon Dhakwan ibn Abdi Qais radiallahu anhu, qui est chargé de surveiller la tente du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi, ensuite également parlé du rôle des tribus juives de Médine dans la bataille de Uhud. On a expliqué tout ce que les historiens ont dit à propos des différents rôles supposés des tribus juives de Médine. Et on a dit que dans ces différentes narrations, il y a plusieurs positions. Il y a la position de ceux qui auraient choisi la neutralité parmi les tribus juives, comme les Bani Quraïba. Il y a la position de ceux qui aurait choisi de remettre en cause le pacte d'alliance qui est lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les Bani Nadir. Il y a ceux qui auraient participé, ou voulu participer en tous les cas, à la bataille de Uhud du côté des musulmans, comme Mukhayriq, ou comme même une brigade de toute une tribu juive qui attend l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Thaniyatul Wada', pour se joindre à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aurait remerciés en leur disant « Merci, mais nous n'avons pas besoin de vous. » Et on a expliqué que toutes ces versions qui parlent de ces différents rôles contradictoires les uns aux autres, aucune n'a été authentifiée. Donc on n'est pas capable de dire que ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Non. Et on a expliqué la semaine dernière aussi que les hypocrites vont attendre d'arriver à Shaut, là où le prophète sallam va prier la prière de l'Fajr. Donc on est à l'avant-dernière étape avant la montagne de Uhud. Le prophète sallam s'est passé par Thaniyatul Wada'. Il a coupé vers l'est. À Thaniyatul Wada', il est remonté un petit peu vers le nord. Il s'arrête à Shaykhan, il y passe une partie de la nuit. Ensuite, avant le Fajr, il repart. Il s'arrête à Shaut pour y présider et pour y prier la prière de l'Fajr. Ensuite, au petit matin, il va traverser la tribu des Bani Haritha. Et enfin, il arrivera à Uhud. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera à Shaut, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, va inciter les gens à rentrer à Médine. Il va dire, en ce qui me concerne, moi je rentre. Rentrons. Il n'y aura pas de combat. Les idolâtres ne font que bluffer. C'est l'argument qu'il utilise. Dans d'autres versions qui n'ont pas été authentifiées, il aurait été jusqu'à dire Ata'ahum wa asani. Il leur a obéi et il m'a désobéi. En parlant de qui ? En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam penchait plus pour la vie de rester à Médine et d'y attendre les idolâtres. Et l'hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a aussi penché vers cet avis.
Mais la grande majorité des compagnons ont demandé à sortir et à aller intercepter les idolâtres. Et donc le professeur Hassan s'est rangé du côté de la majorité. Et donc il aurait dit à ce moment-là, « Ata'ahum wa asani. » Il leur a obéi, il m'a désobéi à moi. Rentrons. Et le verset du Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que non, ce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul aurait dit, c'est « Law na'lamu qitalan lattaba'nakum. » Si nous avions la certitude qu'il y avait combat, on vous aurait suivi, mais il n'y aura pas de combat. Non. Et ici, le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, dont on a déjà parlé, celui qui a donné ses dernières volontés à son fils Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, il vient, et il est de la même tribu que Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et il dit, « Wayhakum, malheur à vous. Voulez-vous abandonner maintenant ?» Et selon certains historiens comme Al-Mubarak Fouri, rahimahullah, l'endroit qui a été choisi par Abdullah ibn Ubay ibn Salul et le moment qui a été choisi par Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour se retirer de l'armée, c'est le moment et l'endroit où ça peut faire le plus mal à l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a attendu au moment où le soleil se lève, donc c'est visible, on le voit. Il aurait pu le faire avant, pendant la nuit. Il le fait au moment où le soleil se lève. Et l'endroit qui est le moins caché par les palmiers, parce qu'il y a, en face, comme on a dit, tout à l'est, les campements des idolâtres. Et l'endroit qui est le moins caché, c'est-à-dire les deux armées se voient, l'armée des musulmans et l'armée des idolâtres, ils se voient. Il n'y a plus rien qui cache la vision des uns et des autres. C'est cet endroit-là, à Shawt. Et donc, évidemment, ils font du bruit. Et ils se montrent. Et sans aucun doute, ça montre que Abdullah ibn Ubay ibn Salul était de mèche avec les idolâtres, qu'il y avait des négociations secrètes entre eux, et qu'il leur montre, voilà, je tiens ma promesse. Et non seulement ils se retirent de l'armée, et il se retire avec le groupe des hypocrites, mais il arrive à convaincre 300 hommes. L'armée a été de 1000. Il arrive à convaincre 300 hommes. Et il est même sur le point de convaincre deux tribus importantes parmi les Médinois, la tribu des Bani Salama et la tribu des Bani Haritha. Ils sont sur le point de le suivre. Mais comme on a dit, Abdullah ibn Haram, qui lui appartient aussi au Bani Salama, va intervenir et il va dire « Honte à nous si nous les suivons et si nous nous retirons de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne serions que des lâches. » Et c'est à propos de ces deux tribus qu'Allah Azza wa Jal dit « Idh hamma ta'ifatani an tafshala wallahu waliyuhuma » Et lorsque deux factions, deux groupes ont été sur le point de laisser tomber, Wallahu waliyuhuma, mais Allah était leur allié. Dans l'authentique de Bukhari, le compagnon Jabir ibn Abdullah, donc le fils de Abdullah ibn Amr ibn Haram, qui a essayé de convaincre les gens de rester, ou du moins ceux qui se retiraient de rester, eh bien son fils Jabir ibn Abdullah nous rapporte dans l'authentique de Bukhari, il dit, ce verset a été révélé pour nous, la tribu des Bani Salama et la tribu des Bani Haritha. Et il dit, il précise, et ne croyez pas que je n'aurais pas aimé que ce verset soit révélé. Parce que le verset, d'une certaine manière, il commence par un presque reproche, on va dire. Idh hamma ta'ifatani an tafshala. Et lorsque deux groupes ont été sur le point de partir, de laisser tomber, ce n'est pas une qualité. Il dit, mais moi, ce verset, il me plaît malgré tout. Pourquoi? Parce que Allah dit par la suite, « Wallahu waliyuhuma » et Allah est leur allié. Et donc, finalement, ils sont restés. Donc, il dit, pour moi, le verset, il ne dit que du bien de nous. Ils ont été sur le point de quitter, mais ils ne l'ont pas fait. Et en plus, Allah est leur allié. Qui peut dire avec certitude Allah est son allié ? Nous, on peut le dire. On a le verset qui est de notre côté. Non. Ala kulli hal, après ces événements, on peut parler aussi d'autres choses qui s'est passées pendant ce trajet. Donc c'est une nuit, hein, ça. Il y en a des choses qui se passent sur ce trajet. Parmi les autres événements qui vont se passer dans ce trajet, il y a le passage en revue de l'armée. Certains historiens disent que c'est arrivé à Shaut, c'est-à-dire à Sheikhan Afwan, c'est-à-dire avant Shaut, avant que les hypocrites, les 300 hommes, ne quittent l'armée. Mais il y a divergence entre les historiens. Encore une fois, rien ne nous permet de manière authentique de dire ça s'est passé à tel moment ou à tel moment. Ce qu'on sait, c'est que les historiens s'accordent qu'à un moment, le professeur Salem a passé en revue son armée. Et il l'a soit fait là où il a passé une grande partie de la nuit, c'est-à-dire à Sheikhan, ou soit il l'a fait à Shaut, là où il s'est arrêté pour prier Al-Fajr. Et que lorsqu'il a passé en armée, lorsqu'il a passé en revue l'armée, le professeur Salem, pourquoi il passait en revue l'armée ? Maintenant, sur le chemin, il est possible que des étrangers, des espions, aient pu s'introduire dans l'armée. Il y a beaucoup de gens, il y a des centaines d'hommes, c'est un peu éparpillé. Donc quelqu'un il va s'introduire dans l'armée, personne ni vu ni connu. Et donc ça peut même être un groupe d'espions qui vont s'introduire dans l'armée. Donc à chaque fois que le professeur Sam sortait pour une expédition ou pour une bataille, à un moment, il s'est arrêté pour passer en revue l'armée, pour bien voir est-ce que tout le monde est là ? Est-ce qu'ils n'ont perdu personne ? Et est-ce que tous ceux qui sont là, on les connaît ? Il n'y a pas d'espions. Et aussi, le professeur sallam savait qu'il y avait, subhanallah, des jeunes parmi les compagnons qui insistaient pour participer aux batailles. Et le professeur Sam leur interdisait parce qu'ils étaient trop jeunes. Le professeur Sam l'autorisait à partir de 15 ans. En dessous de 15 ans, c'était interdit. Et donc, il vérifiait aussi. Et ici, on a même des versions qui nous disent que ses compagnons, ils savaient que les moments des passages en revue, ces jeunes compagnons adolescents qui voulaient participer aux batailles, ils savaient que c'était un moment où ils risquaient de se faire démasquer et donc d'être renvoyés. Et donc, pendant ces moments-là, ils essayaient de se cacher derrière les adultes pour ne pas être vus. Aïwa. Et selon les historiens, 11 parmi les jeunes compagnons auraient été renvoyés à ce moment-là. Le professeur Salim aurait renvoyé Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Omar, il avait quel âge ? À ce moment-là, il avait 14 ans. Le professeur Salim, Abdullah ibn Omar, pour un an ou pour quelques mois, tu n'as pas l'âge. Retourne. La guerre, c'est une affaire d'adultes. Et même les adultes. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. On vous a prescrit le combat, mais c'est quelque chose qui est pour vous détestable, que vous devez détester. Vous ne devez pas aimer ça. Vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez le choix entre combattre et pas combattre, évidemment, c'est la priorité à ne pas combattre, à la paix. Et donc il lui dit à Abdullah ibn Omar, c'est pas possible. Ensuite, le compagnon Al-Bara ibn Azib, le professeur Hassan lui dit, tu n'as pas 15 ans, retourne. Al-Bara ibn Azib, je vais en reparler parce que les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que vraiment il a été renvoyé ou est-ce qu'il a participé à la bataille de Uhud ? On va en reparler tout à l'heure. Ensuite, le professeur Hassan remarque également Usama ibn Zayd. Il était aussi très jeune. Le professeur Sam lui dit non. Ensuite, le professeur Sam renvoie également, parce que trop jeune, le compagnon Usayd ibn Zuhayr. Radiyallahu anhu. Le compagnon Usayd ibn Zuhayr. Il renvoie également Zayd ibn Thabit. Radiyallahu anhu. Il renvoie Zayd ibn Haritha. Radiyallahu anhu. Il renvoie Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu. Il renvoie Urana ibn Aws, toujours pour leur âge. Tout ce qu'on cite là, c'est pour leur âge. Trop jeune. Urana ibn Aws, Prophète lui dit de repartir. Il renvoie également Amr ibn Hazm pour son âge. Il renvoie Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu et il renvoie Sa'd ibn Habbah radiyallahu anhum ajma'in. Évidemment, ils sont extrêmement déçus. Mais pour le prophète, il n'est pas question de les autoriser à continuer le chemin avec eux, ils sont trop jeunes. Non. Concernant le Bara ibn Azim, d'abord, tous ces noms qu'on a cités, est-ce qu'on peut dire de manière sûre, c'est-à-dire est-ce que c'est authentique, que ce sont ceux-là qui ont été renvoyés? Ça, c'est rapporté par Ibn Ishaq, c'est rapporté par Tabari, et la chaîne de transmission, on y trouve Al-Waqidi. Al-Waqidi. Al-Waqidi est connu pour rapporter les narrations, les histoires, les récits d'histoires, etc. Mais pratiquement tous les muhaddithines s'accordent à dire « Innahu matrouk ». On le laisse lui, on le met de côté, Al-Waqidi. Yani ce que lui il rapporte, ce n'est pas authentique. Non. Al-Waqidi matrouk. Al-Mouhim, on ne va pas rentrer dans les divergences. Il y en a même entre les muhaddithines, il peut y avoir des divergences. Et ici, en l'occurrence, il y a des divergences. Est-ce qu'il était matrouk dans tout ce qu'il a rapporté? Certains disent oui. D'autres disent qu'il a été matrouk à partir du moment où il a commencé à confondre. Selon certains, à cause de l'âge, parce qu'il était devenu âgé. Et d'autres disent que ce n'est pas à cause de l'âge, c'est parce que sa bibliothèque, tous ses manuscrits, tous ses livres ont brûlé. Et il a eu un choc, et depuis ce moment-là, il confondait tout, il mélangeait les choses, etc. Et comme on est incapable de dater précisément ce qu'il a rapporté, quand est-ce qu'il l'a rapporté, avant l'incendie de sa bibliothèque ou après, on a été obligé de considérer que rien n'est fiable, alors qu'on sait qu'il a rapporté beaucoup de choses. Non. Donc on le prend en tant qu'histoire, et si on n'a pas à côté d'autres chaînes de transmission qui permettent de venir fortifier cette chaîne de transmission, on dit ce n'est pas suffisant quand c'est Al-Waqidi tout seul qui le rapporte. Et ici, en l'occurrence, tous les noms qu'on a cités, ils sont dans l'ouvrage d'Ibn Ishaq, et vous le trouvez aussi dans Tariq Tabari, mais la chaîne de transmission, c'est la même chaîne de transmission, que ce soit chez Ibn Ishaq ou Tabari, et il y a le Waqidi dedans, donc ça n'a pas été authentifié. Et parmi tous les noms qu'on a cités, rien n'est authentique, si ce n'est Abdullah ibn Omar. Parce que dans le Bukhari, dans l'authentique de le Bukhari, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu rapporte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, aradahu yawma Uhud. وهو ابن 14 سنة فلم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. Donc dans ce hadith qui est authentifié dans le Bukhari, c'est Abdullah ibn Omar lui-même qui rapporte et qui dit le prophète Hassan nous a passé en revue pour la bataille de Uhud. Et j'avais 14 ans. Elle m'a renvoyé, il ne m'a pas permis de participer au combat. Par contre, pour la bataille des tranchées, dont on parlera plus tard, il nous a passé en revue et j'avais 15 ans. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a autorisé à participer au combat. Non. Donc là, on sait qu'Abdullah ibn Omar, ça a été authentifié. Et on a un souci avec un des compagnons qu'on a cités, c'est Al-Bara ibn Azib radiyallahu an. Parce que Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, certains historiens nous disent, comme on vient de le citer avec le Waqidi, il a été renvoyé. Il n'a pas participé, il était trop jeune. Et par contre, d'autres historiens, comme Al-Mubarak Fouri, en français, parmi les livres les plus connus de la biographie du professeur Salem, c'est celui qui... Il y a deux traductions différentes du livre. Une traduction qui est intitulée le joyau ultime et une autre traduction qui est intitulée le nectar cacheté. C'est l'ouvrage de Al-Mubarak Fouri. Et Al-Mubarak Fouri, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu participer à la bataille de Uhud. Aïwa. Et bien ici, on a une incohérence. L'incohérence, c'est quoi? C'est qu'on a aussi une chaîne de transmission rapportée par Tabarani. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, a dit « Uridtu ana wa Abdullah ibn Umara, radiyallahu anhuma. » على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستصغرنا وشهدنا أحدا. Dans cette version, Bara ibn Azib dit, on a été passé en revue, moi et le compagnon Abdullah ibn Omar. Et le prophète nous a considérés trop jeunes. Mais nous avons participé à Uhud. Ah, comment on peut comprendre ce texte? D'abord, est-ce que le texte est authentique? L'Haythami, rahmatullahi alayhi, dit Rijaluhu Rijalu Sahih. Les hommes qui sont dans la chaîne de transmission ici sont des hommes des authentiques, yani. Ils sont fiables. Donc pour lui, la chaîne de transmission, elle est fiable. Non. D'autres, spécialistes du hadith comme. Ceux qui ont fait sont des contemporains qui sont encore vivants et qui ont fait un travail, masha'Allah, sur Tariq Tabari. Vous savez que Tariq Tabari, c'est plusieurs volumes. Et ils ont pris Tariq Tabari, ils sont deux spécialistes du hadith, qu'Allah les récompense pour cette grande œuvre qu'ils ont fait, et ils ont pris récit après récit de Tabari et ils ont donné leurs avis avec leur enquête, est-ce que c'est authentique ou pas authentique. Et donc tous ces volumes, ils les ont retravaillés à deux, le Barzanji et Mohamed Sobhi Hassan Hallaq. Ils ont fait ce travail. Et eux, sur cette narration, ils disent quoi? Ils disent la narration de Bara ibn Azib. Quand il dit « Moi et Abdullah ibn Omar, on a été passé en revue, le professeur Hassan nous a considérés trop jeunes, donc il nous a renvoyés, mais on a quand même participé à Uhud. » Ils disent, quand on travaille avec minutie, on enquête avec minutie sur ce hadith, on se rend compte et on est obligé d'arriver à une conclusion. C'est laquelle? C'est que le hadith, il n'est pas authentique dans son intégralité. La première partie, elle est authentique, c'est celle qui dit « Uridtu ana wa Abdullah ibn Umar fastasgharana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Moi et Abdullah ibn Omar, on a été passés en revue et le prophète nous a considérés trop jeunes. Et la dernière partie où il dit « mais on a participé à Uhud », cette partie, ils disent, elle est pas fiable, elle est da'if. Et ça existe, ça. Quand le muhaddith, il est minutieux dans son enquête, il est capable même de dire, quelquefois, il y a une partie du hadith qui est sahih et une autre qui ne l'est pas. Vous allez me dire, bah, comment ça se fait? Si une partie, elle est bonne, l'autre, elle est aussi... Non. Il y en a une partie, quand tu prends le hadith dans son intégralité, tu prends la chaîne de transmission, il y a des choses, des arguments qui te font dire que ce n'est pas fiable. Donc le hadith dans son intégralité, il n'est pas fiable. Ce qui aurait pu être le cas de ce hadith. Sauf que, quand on prend d'autres narrations, d'autres chaînes de transmission, elles viennent confirmer, dans ces chaînes de transmission différentes, une partie du hadith. Par exemple, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Lorsque le professeur sallam, il est sorti, il est rentré chez lui, il a mis ses deux armures justement pour Uhud, et qu'au moment où il est sorti, les compagnons ont regretté de l'avoir fait pencher pour leur avis, c'est-à-dire de sortir de Médine. Et ils ont dit, on regrette, c'est toi tu penchais plus pour rester à Médine, donc si tu veux rester à Médine, restons à Médine. Le professeur sallam, il leur a dit quoi? Ma kana yanbaghi li nabiyyin labisa matahu an yada'aha hatta yahkum Allah baynahu wa bayna aduwwihi. Il n'appartient pas à un prophète qui a mis son armure, après avoir mis son armure, de l'enlever, de la poser, tant qu'Allah n'a pas tranché, n'a pas jugé entre lui et ses ennemis. Et on a expliqué que toute la narration qui est rapportée chez Ibn Ishaq, chez Tabari, elle est longue en détail sur Uhud, elle est da'if, sauf cette phrase. Elle est sahih. Pourquoi elle est sahih? Parce que cette phrase toute seule, on la retrouve dans des autres hadiths avec une chaîne de transmission authentique. Donc ça ne fait pas pour autant de tout le hadith un hadith authentique, mais on est capable de dire cette phrase, elle en particulier, elle est sahih. Eh bien c'est la même chose ici. Ils nous disent, le Barzanji et Hallaq, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, dans cette version de Tabarani, où le Bara ibn Azib nous dit « Uridtu ana wa Abdullah ibn Umar yawma Uhud ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fastasgharana wa shahidna Uhudan » Ils disent, quand le Bara ibn Azib dit « Il nous a trouvés trop jeunes et donc renvoyés », ça c'est authentique. Mais « wa shahidna Uhudan » c'est pas authentique. Vous allez me dire, bah donc c'est bon alors. Donc c'est le Bara ibn Azib, il n'a pas participé à Uhud. Je vous ai dit tout à l'heure, le Mubarak Furi, lui, il persiste et signe, et il dit, il a participé à Uhud. Quoi qu'en disent les autres historiens. Pourquoi ? Il dit, retournez dans l'authentique de Bukhari et vérifiez les versions de l'authentique de Bukhari. Mais il ne donne pas plus de détails, le Mubarak Furi. Donc c'est à toi d'aller faire la recherche. Ce que j'ai essayé de faire avec les petits moyens que j'ai. Et ici, en effet, on comprend ce qu'il veut dire. Quand on arrive dans le chapitre de l'Bukhari, où il y a toutes les narrations authentiques de l'Bukhari qui parlent dans le chapitre de la bataille de Uhud, il y a certaines versions qui sont rapportées par le Bara ibn Azib. Et il raconte des détails de la bataille. Par exemple, c'est lui qui rapporte, il commence le hadith en disant لقينا المشركين يومئذ dans une autre version لما كان يوم احد ولقينا المشركين donc nous avons rencontré nous avons fait face aux idolâtres le jour de Uhud ce jour-là dans une autre version le jour de Uhud lorsqu'il y a eu le jour de Uhud et que nous avons été combattre à la rencontre des idolâtres et ensuite qu'est-ce qu'il raconte il raconte ce que nous on va raconter plus tard sur le mont des archers Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a nommé des archers, il a mis un chef parmi eux, mettez-vous sur le mont des archers et faites attention à la cavalerie de Khalid ibn al-Walid qui était encore dans le camp des idolâtres à ce moment-là. Ça, on va l'expliquer. Eh bien, cette histoire du mont des archers, cette décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre, elle est rapportée par qui ? Par le Bara ibn Azib. Elle est authentique, elle est dans l'authentique de l'Bukhari. Et donc, à quoi fait allusion le Mubarak Furi quand il dit « Le Bara ibn Azib, il a participé à la bataille parce que lui-même a dit « Wa shahidna Uhudan » dans la version de Tabarani. Et il dit, même si certains vont vous dire que ce n'est pas authentique, regardez ce qu'il y a dans le Bukhari. Et dans le Bukhari, on a quelqu'un qui nous raconte la scène comme s'il l'avait vécue. Aïwa. Mais, la haqiqa, on restera dans le doute. Pourquoi ? Parce que la qina Quand le Bara ibn Azib radiallahu anhu dit Laqina al-mushrikina yawma Uhud, nous avons rencontré les idolâtres le jour de Uhud. C'est possible qu'il était là, mais qu'il n'a pas participé à la bataille. Parce qu'on n'a pas de détails. Quand on dit le professeur Salim a refusé le combat pour les jeunes, est-ce que ça veut dire qu'il rentre à Médine ? Ou qu'il les accompagne et qu'ils sont mis de côté, qu'ils sont mis à l'abri ? C'est possible qu'il a tout vu de ses yeux, mais qu'il n'a pas participé au combat. Et même quand il dit « wa shahidna Uhudan », nous avons assisté à Uhud. Il dit, le professeur Hassan nous a trouvés trop jeunes. Donc sous-entendu, on n'a pas pu participer au combat. Mais « shahidna Uhudan », « shahidna » ça veut dire quoi ? Ça veut dire « on était là ». Ça peut vouloir dire qu'ils ont participé au combat ou ça peut vouloir dire qu'ils étaient juste témoins. Et voilà. Ensuite, il est possible aussi qu'ils sont rentrés à Médine et que lorsqu'il dit laqina al-mushrikin, il raconte ce que les autres compagnons lui ont raconté. Il dit nous, les musulmans, on a été contre les idolâtres et voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il l'a entendu d'autres compagnons et il le rapporte même s'il n'a pas vécu la scène. Donc il y a toutes ces suppositions qui sont possibles et donc ça ne nous permet pas d'avoir une conclusion qui nous permet de dire à 100% c'est sûr le Bara ibn Azib a participé ou à 100% il n'a pas participé. Nous, ce qui nous importe de tout ça, c'est quoi ? C'est de savoir qu'à un moment, le prophète sallam s'est arrêté et qu'il a passé en revue son armée et qu'il a renvoyé, selon les historiens, jusqu'à 11 de ses compagnons parce que trop jeunes. Renvoyés, ou en tout cas, ils les ont suivis, ils ont été mis à l'écart, à l'abri. Et ce qu'on a d'authentique, c'est la non-participation de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, parce qu'il n'avait que 14 ans. Naam. Une autre narration qui nous est rapportée nous parle de deux autres compagnons qui, eux, et tous les historiens s'accordent à raconter cette histoire, même si elle n'a pas été authentifiée. c'est que cette narration, elle nous dit deux compagnons avaient 14 ans et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a quand même autorisé à participer au combat. Qui sont-ils ? Rafi' ibn Khadij, radiyallahu anhu, et Samurat ibn Jundub, radiyallahu anhu. Selon cette version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a passé en revue, il est arrivé à Samurat ibn Jundub. Toi, tu as 14 ans, mais tu es un très bon archer. Tu sais tirer aux flèches. Il était connu pour savoir et pour exceller dans le tir à l'arc. Le professeur Assemi, il va lui dire, on aura besoin de ta compétence. Donc toi, tu restes. C'est une exception. Et ensuite, il arrive à Samurat ibn Jundub. 14 ans. Tu ne tires pas aussi bien à l'arc que Rafi' ibn Khadij. Donc toi, désolé, tu ne peux pas participer. Rafi' ibn Khadij, son père n'est plus vivant. Mais il a un beau-père. Sa mère s'est remariée après le décès de son époux avec Murri ibn Sinan, radiyallahu anhu, le compagnon Murri ibn Sinan. Et donc, Samurat ibn Jundub, il voit son ami, Rafi' ibn Khadij, qui a le même âge que lui, et que lui a le droit de participer, et lui, il ne peut pas. Donc, il n'est pas content. Mais il n'ose pas se plaindre au professeur Hassan. Il respecte le professeur Hassan. Donc, il va voir son beau-père. Et subhanallah, cette version, comme j'ai dit, elle n'est pas authentique, mais quand on voit les termes qui sont utilisés, comment il l'appelle ? Il l'appelle Ya Abati. Ô père, ô mon père. C'est-à-dire, même si ce n'est pas vraiment son père biologique, il y a le respect qu'il a pour lui. Il le considère comme son père, c'est lui qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Il lui dit, « Ya Abati, ô mon père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a renvoyé alors qu'il a accepté Rafi' ibn Khadij. » Il dit, « Oui, mais il doit y avoir une raison. » Il lui dit, « Oui, il a dit, c'est parce qu'il s'est tiré à l'arc. Mais moi, je le bats à la lutte. Il n'a jamais réussi à me battre à la lutte. » Aïwa. Et subhanallah, ce père, Murri ibn Sinan, ou ce beau-père, il voit que ça lui fait mal au cœur. Et donc, il va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah. » Et il parle de lui en disant quoi ?« Innabni, mon fils. » Alors que tous les historiens s'accordent à dire que ce n'est pas son fils, ce n'est pas son père. « Mon fils, hein, voilà ce qu'il m'a dit. » Le prophète Hassan, il lui dit « Ramène-les, tous les deux. Ramène Rafi', à qui j'ai autorisé de participer au combat parce qu'il s'est tiré à l'arc, et ramène Samurat ibn Jundub, que j'ai renvoyé. » Et il dit à Samurat ibn Jundub, « C'est vrai que tu as dit à ton beau-père ?» Il dit « Naam. » Il dit, montrez-nous ça, yallah, faites un combat. On va voir. Et Rafi' ibn Khadij arrive, et Samurat ibn Jundub, sans que Rafi' ibn Khadij n'ait le temps de voir arriver par où ça arrive, il le met par terre. Et là, c'était sa compétence, la lutte. Mais au combat, quelqu'un de 14 ans face à des gens surarmés, la lutte, elle va servir à quoi ? Elle va servir à grand-chose. Mais le professeur Hassan lui dit, tu seras avec lui. Tu lui donneras les flèches, tu l'aideras. Si tu veux vraiment participer, alors vas-y, c'est bon. Tu as raison, tu l'as battu à la lutte, donc tu seras avec lui. Non. Et donc, on nous dit que les deux seuls qui ont été autorisés à participer à la bataille de Uhud, alors que leur âge normalement ne le permettait pas en théorie, parce qu'ils n'avaient que 14 ans, c'est Rafi' ibn Khadij, radiyallahu an, et Samurat ibn Jundub, radiyallahu an. Ensuite, le prophète, sallam, après avoir passé en revue l'armée, après le fait que les hypocrites se sont retirés au su et au vu des idolâtres, le prophète, sallam, a besoin d'arriver à Uhud. Mais c'est le petit matin, on le voit. Et il a besoin d'arriver à Uhud sans qu'on lui coupe la route. Et donc il s'approche là, il s'approche de Uhud. Il lui reste qu'une étape, c'est l'étape de la tribu des Bani Haritha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son armée, qui d'entre vous est capable de faire le guide, de mener toute cette armée, donc 700 hommes, par un chemin de telle sorte à ce qu'il ne soit pas vu par l'armée des idolâtres qui campent tout autour et nous ramène à Uhud. Et là, un compagnon va se lever, il va dire, moi, j'habite ici, dans la tribu des Bani Haritha. Je connais les moindres recoins. Je connais les endroits par où passer, où il y a des arbres, des palmiers, etc., pour ne pas être vu. Et de telle sorte à ce que les idolâtres ne comprennent pas par où on va et vers où on va surtout. Pour pas qu'ils leur coupent la route avant qu'ils n'arrivent à Uhud. Il faut, le professeur Salam, pourquoi ? Parce qu'il pense à la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, c'est une grande montagne qui peut les mettre à l'abri en cas de danger, etc. Et donc le professeur Salam, c'est pour ça qu'il a pensé à Uhud. Il veut cette montagne. Et surtout, ce qu'il veut, c'est que les idolâtres ne comprennent pas qu'il a pensé à la stratégie de la montagne de Uhud. Parce que s'ils le comprennent, les idolâtres peuvent lui couper la route et prendre la montagne avant lui. Et à ce moment-là, ils seront bloqués. Ils n'auront pas accès à la montagne, il y aura la ville de Médine derrière eux, et donc la ville de Médine, elle pourrait être en danger s'ils perdent la bataille, ce qui va être le cas. Donc heureusement que le professeur Hassan va prendre la montagne d'Uhud. Parce qu'en prenant la montagne d'Uhud, en fait, ce que le professeur Hassan fait, c'est comme s'il y a l'armée comme ça, le professeur Hassan, il les contourne, il les prend à revers. Donc ils vont être obligés de se retourner pour mener la bataille, et ils vont laisser la ville de Médine loin derrière eux. C'est-à-dire, occupez-vous de nous. Et si ils perdent la bataille, ils vont sonner la retraite, les musulmans, encore plus vers le nord. Et donc, ils seront, d'une certaine manière, ils veulent les inciter, dans le cas où ils perdent, à aller vers le nord pour les pourchasser, pour mettre à l'abri la ville de Médine. Non. Donc, pour faire ça, le professeur Saint a besoin de quelqu'un qui peut les y amener. Et ici, le compagnon Abu Hafma, radiyallahu anhu, va dire « Ana laha ya Rasulallah ». Moi, j'en suis digne au messager d'Allah, je suis né ici, j'ai grandi ici, je connais la ville. Et ça, c'est normal, il y a quelqu'un qui a vécu dans une ville, qui y a grandi, connaît les moindres ruelles. Quelqu'un qui est juste de passage ou qui s'est installé juste depuis quelque temps, il va connaître, mais pas autant que celui qui est né, qui a grandi, et surtout quand on est jeune, qu'on est un enfant, on s'amuse dehors, on connaît les rues que même des adultes ne connaîtraient pas. Il y en a, on vadrouille. Et surtout, on joue à cache-cache. Et quand on joue à cache-cache, on essaie de trouver les endroits justement qui ne sont connus par presque personne. Et c'est comme ça qu'on développe sa connaissance des moindres recoins. Non. À la kulli hal, donc Abu Hafma dit « Ana la ya Rasulallah ». Moi. Et Abu Hafma va faire quelque chose de très intelligent. Il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons passer par un endroit, et si nous passons par cet endroit, nous ne serons pas vus. Et ça va déstabiliser les idolâtres, même s'ils nous voient et qu'ils savent qu'on passe par cet endroit-là. D'abord, ça va être compliqué pour eux de nous suivre du regard. Et s'ils ont des espions et qu'ils nous voient, ils envoient des éclaireurs qui voient qu'on passe par cet endroit-là, ils ne vont pas comprendre qu'on se dirige vers Uhud. Mais pour ça, on a besoin de passer par un verger, par un jardin de palmiers dattiers qui appartient à Mirba' ibn Qaydi, que les historiens surnomment Mirba' ibn Qaydi al-Munafiq. Mirba' ibn Qaydi, l'hypocrite. On l'a considéré parmi les hypocrites. Il fait partie des hypocrites. Le professeur Hassan dit, alors passons par là. Ce Mirba' ibn Qaydi, il est aveugle. Et donc il entend. Il entend qu'on rentre dans son jardin, dans son champ de palmiers dattiers. Et il y a du bruit, il y a 700 hommes. Et lui, il fait partie des hypocrites, de ceux, on ne sait pas s'il était là parce qu'il était aveugle, mais en tout cas, il fait partie des hypocrites, c'est-à-dire il adhère à ceux qui se sont retirés de l'armée. Et il entend un passage, et un gros passage. Et il prend de la terre, parce qu'il comprend, d'abord ça ne lui plaît pas qui que ce soit, ça ne lui plaît pas que des gens passent par son champ. Donc il prend de la terre et il jette, sans voir à qui il jette, parce qu'il est aveugle, et il jette vers ses sons, vers ses bruits des gens qui passent. Et en même temps il dit, « Ya in kunta Rasulallah, fala uhillu laka. » Si tu es le messager d'Allah, je ne te permets pas de passer par mon jardin. Et ensuite, il prend une autre poignée de terre et il dit, si j'étais sûr de ne toucher personne d'autre que toi avec cette poignée, je l'aurais jetée. Mais comme je ne vois pas, je suis aveugle, je ne la jette pas. Et là, c'est pour ça que les historiens le surnomment al-Munafiq. Là, c'est une rébellion ouverte, une hostilité ouverte et revendiquée à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des menaces à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, certains d'entre eux tirent leurs épées, entre guillemets, pour lui régler son compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit « Da'ou ! Da'ou hadha l'a'ma al-basar wa l'a'ma al-qalb » Laissez-le, laissez cet homme qui est aveugle des yeux et aveugle du cœur. Qu'est-ce que vous voulez lui faire ? Il est aveugle des yeux et aveugle du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur permet pas, sauf qu'à ce moment-là, il y en a un. Si mes souvenirs sont bons, le compagnon Saad ibn Zayd avait déjà lancé un bâton vers lui. Et ce bâton lui arrive sur la tête. Naam. Donc il est blessé à la tête. Ici, il faut savoir qu'à chaque fois, on ne l'a pas précisé, que ce soit au moment où les hypocrites se sont retirés avec 300 autres hommes, ou à ce moment-là, au moment où ils font le passage dans ce champ de palmiers dattiers qui appartient à cet hypocrite Mirba' ibn Qayri, à chaque fois, les compagnons divergent entre eux sur la position à adopter face à ces hommes. Il y a ceux qui disent « Ils ne font plus partie des nôtres, ce sont des ennemis, combattons-les », on va dire la position dure. Et il y a ceux qui disent « Ce sont des musulmans, avec lesquels on n'est pas d'accord ». On n'est pas d'accord avec leur façon de voir les choses ou leurs opinions, mais ça reste des musulmans. On ne peut pas les combattre ou les considérer comme hostiles ou comme des ennemis, comme les idolâtres. Et le prophète, en apparence, il considérera toujours que ce sont des musulmans. Non. Et il y a un verset dans sourate An-Nisa qui fait référence à ça, selon les exégèses, une partie des exégèses, il fait même référence au moment où les 300 hommes se sont retirés de l'armée et qu'il y a eu une divergence entre les compagnons. Ce verset, il dit « فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا « فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَأَتَيْنِ » Qu'avez-vous ? Le verset, il dit « Qu'avez-vous en s'adressant aux compagnons ?» Fil munafiqina fi ta'atayn, à être deux groupes, à ne pas vous mettre d'accord, à être deux groupes contradictoires face aux hypocrites. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah, alors qu'Allah les a renvoyés à leurs actes, ils devront répondre de leurs actes. Alors qu'avez-vous à vous disputer? D'une certaine manière, c'est comme si Allah azza wa jalla disait aux compagnons, c'est ce qu'ils veulent. Ils vous troublent, ils vous perturbent par les prises de décision qu'il revendique pour justement semer la zizanie, la division parmi vous. Donc arrêtez de diverger sur leur sort. Laissez-les. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah, il les a renvoyés à leurs actes. Laissez-les. Non. Et donc beaucoup d'historiens nous disent, on n'a pas de détails, on n'a pas de narration qui nous raconte la détail, mais les détails, mais ce verset prouve et démontre qu'il y a eu une divergence entre les compagnons à ce moment-là et que le verset leur dit, cessez ces divergences. Surtout pour les hypocrites. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Non. Et ensuite, donc, on revient à Mirba' ibn Qayri, qui a été blessé par Zayd ibn Sa'd. Et le professeur sallam arrive par la cause de ce guide, Abu Hafma, à Uhud, sans que les idolâtres ne se doutent que c'est ce qu'ils cherchaient à atteindre. La dernière chose qu'on peut citer qui s'est passée sur le trajet, c'est une narration qui n'est pas authentifiée non plus, mais qui est chez Ibn Ishaq, qui est chez Tabari, qui nous dit que quand ils avançaient vers Uhud, à un moment, il y a un cheval qui a secoué sa queue. Alors, cette narration, elle n'est pas authentique. Et vous rappelez que nous, on a dit qu'il y avait divergence entre les historiens pour dire est-ce qu'il y avait des chevaux dans l'armée du prophète Hassan ou pas. On a dit qu'il y a des historiens qui ont dit qu'il n'y en avait aucun. On a dit qu'il y a des historiens qui ont dit qu'il n'y en avait que deux. Et on a dit que Ibn al-Qayyim est parti jusqu'à dire qu'il y avait une cavalerie de 50 chevaux dans l'armée du prophète Hassan. Mais la plupart des historiens, et la plupart même des spécialistes des narrations comme Ibn Hajar al-Asqalani, ont renvoyé cette supposition, et ils ont dit c'est soit 0, soit 2. La majorité considère qu'il n'y a pas eu de chevaux. Et de toute façon, cette version, elle n'est pas authentique, comme je vous ai dit. Mais on la raconte comme on raconte les histoires. Mais en tout cas, si on en croit cette version, un cheval qui aurait été présent dans l'armée du prophète a secoué sa queue et elle s'est accrochée à une épée, donc l'épée de celui qui montait ce cheval. Et cette narration, elle est rapportée chez Ibn Ishaq. Il met comme titre « Ma tafa'ala bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour l'optimisme. Ce qui a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam optimiste. Il y en a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il y avait une occasion de remonter le moral dans un événement quelconque, il le faisait. Et donc Ibn Ishaq, il rapporte cette narration sous ce titre pour expliquer qu'il y a eu un petit événement de rien du tout et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même utilisé pour dire aux compagnons « Ouais, regardez, ne vous inquiétez pas, Yann. » Et donc on nous raconte dans cette version que le cheval a secoué sa queue, qu'elle a frappé contre l'épée de celui qui était attaché, qui était sur cette monture. Et donc, en reprenant sa queue, le cheval, il a tiré l'épée, en fait. La queue, elle s'est attachée à la poignée. Le clou qui vient tenir la poignée à la lame, elle s'est accrochée à ça. Et donc, l'épée, elle a été tirée de son fourreau. Et le prophète Hassan a vu ça. Ça peut arriver. C'est quoi le problème? Le prophète Hassan va lui dire « Shim Seyfak ». فإني أرى السيوف ستسل اليوم. Rentre, remets ton épée dans son fourreau. Parce que j'en déduis que si cette épée elle est déjà sortie, entre guillemets, alors on n'est pas encore arrivé à Uhud, elle est sortie aussi facilement de son fourreau juste parce que la queue du cheval l'a touchée. J'en déduis que les épées aujourd'hui, elles vont toutes sortir du fourreau. D'une certaine manière, le prophète Hassan leur dit, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Il y aura un combat aujourd'hui. Mais ne soyez pas précipités. Range l'épée. Shim Seyfak. Non. Et c'est en ce sens que Ibn Ishaq le rapporte et l'intitule Ma tafa'ala bihi Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète Hassan sallam ce qui a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam optimiste, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé et a compris dans l'optimisme. Naam. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait souvent. Naam. Quand, par exemple, on lui présentait quelqu'un et qu'il y avait un nom qui pouvait avoir un sens bénéfique, il dit, cette personne, il va nous ramener que le bien, Léana, regarde comment il s'appelle. Naam. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Uhud. Et les idolâtres vont comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut prendre la montagne de Uhud. Et donc, eux aussi, à leur tour, ils vont se dépêcher d'aller devant la montagne de Uhud. Et donc, les prochaines fois, on va s'attacher à comprendre comment le prophète Hassan s'installe à Uhud et comment il place son armée et quelles recommandations et ordres il donne à son armée. Et aussi, comment l'armée idolâtre va arriver à Uhud et comment ils vont organiser leur armée aussi à Uhud. Tout ça, c'est ce que nous verrons à partir de la fois prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum pour votre attention, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Par contre, pour l'instant,